Venez vous confier à Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons Laetitia au 3921. Bonsoir Laetitia.
Bonsoir Olivier.
Comment allez-vous Laetitia ?
Eh bien écoutez, ça va très bien.
Ça va très bien.
Oui, ça va. Je suis la maman d'un petit garçon qui est autiste et épileptique.
Oui.
Voilà, il a 8 ans et je rencontre des difficultés aujourd'hui. Enfin, pas qu'aujourd'hui, mais je rencontre des difficultés avec la MDPH, la Maison départementale des handicapés.
D'accord.
De Loire-Atlantique. Et en fait, on me refuse une aide humaine, un accompagnement en fait à l'école pour mon fils. Voilà. Donc en fait, mon fils, il risque juste d'être déscolarisé en septembre si je n'arrive pas à avoir cette aide humaine et cet accompagnement à l'école.
Et quel âge a-t-il, ce petit bonhomme ?
Alors mon fils, il a 8 ans.
Oui.
Il a 8 ans. Il a fait énormément de progrès. Il est dans une il est aussi dans une structure quand même spécialisée à mi-temps. Voilà, je me suis battue en fait déjà pour qu'il puisse y entrer. Donc j'avais déjà contacté un avocat et j'avais déjà fait un recours et j'avais gagné. Mais mon parcours est compliqué en fait parce que mon fils a été très malade jeune.
Oui.
Petit, il a fait beaucoup de crises d'épilepsie. Et après, voilà, le diagnostic d'autisme a été posé. Mais tout ça, c'est un vrai parcours du combattant. Et voilà, en fait, ça va bien. Mais je suis quand même très en colère, en fait, sur la situation scandaleuse, en fait, des personnes en situation de handicap en France.
Mais il y a déjà, dans le début de votre témoignage, quelque chose qui me choque un peu. Hein, c'est qu'on parle d'un enfant qui souffre d'un handicap, porteur d'un handicap, et on a le mot « avocat » dedans, ce qui paraît déjà assez insensé. Vous avez fait appel à un avocat dans quelles circonstances exactement ?
Dans le cadre du coup de l'autisme. En fait, j'ai dû faire un recours. On nous refusait une orientation. J'ai demandé en fait à avoir un établissement expérimental à BA avec Agir et vivre l'autisme.
Oui.
Et j'avais une prise en charge. J'ai eu vraiment un parcours. On a tous vécu ça. Hein. J'ai sorti mon fils. Il était dans un CAMS, un centre d'accueil médico-psychologique avec une prise en charge nullissime et catastrophique. Du coup, je l'en ai sorti, j'ai mis en place une prise en charge en libéral. Et à la suite de ça, j'ai fait une demande pour que mon fils puisse bénéficier de plus de 30 heures par semaine d'ABA pour qu'il puisse progresser. Parce qu'il faut savoir que mon fils n'était pas du tout autonome, il ne parlait pas.
Oui, oui.
J'ai eu une errance de diagnostic. Hein. On m'a culpabilisée. Il faut quand même savoir qu'on culpabilise encore les mères aujourd'hui.
Comment expliquez-moi comment on vous culpabilise.
On nous culpabilise, on nous demande si notre grossesse s'est bien passée, si voilà, les psychologues au sein des centres médico-psychologiques ou sont plutôt d'obédience psychanalytique et
oui.
Du coup on a tendance à culpabiliser les mères en fait à savoir si notre grossesse s'est bien passée et en fait en aucun cas enfin je veux dire mon fils on lui a détecté une anomalie génétique enfin voilà
et puis je pense que si l'autisme avait un rapport quelconque avec une grossesse qui se passe mal ça se saurait il me semble que ça n'a absolument rien à voir.
Non, ça n'a aucun lien.
Bon.
Mais encore aujourd'hui, on culpabilise malgré tout les parents. Voilà, et c'est terrible. Et du coup, je me suis battue pour sortir mon fils. Du coup, j'ai sorti mon fils de cette structure parce que de toute façon, il n'avait aucune prise en charge finalement adaptée. Donc, il n'avait pas d'orthophoniste, il n'avait pas d'ergothérapeute, il n'avait pas de psychomotricienne. Je vois pas comment en fait il aurait pu progresser. Ils ont voulu me proposer en fait une structure qui n'était pas du tout adaptée à son handicap. Donc moi je voulais qu'il aille à l'école. Voilà, je voulais qu'il soit inclus. Donc je me suis battue pour qu'il puisse être scolarisé en maternelle. Et voilà, et j'ai réussi. Et du coup je l'ai sorti de ce centre et j'ai su qu'il existait une structure expérimentale formée donc aux méthodes comportementales ABA.
Oui. Comment s'appelle cette méthode ?
Alors, c'est une science éducative, l'ABA, c'est l'analyse appliquée du comportement.
D'accord.
Et du coup, ça fait 50 ans que ça existe aux États-Unis.
Est-ce que c'est la méthode des 7 ou du 17, ça a à voir à quelque chose ?
Non, c'est parce pas que, du tout la même chose.
Parce que je vais vous raconter quelque chose qui va dans le sens de ce que vous dites ce soir, c'est qu'il y a 6-7 ans maintenant, j'avais fait un film sur les parents d'enfants différents, et donc bien évidemment, nous parlions des enfants aussi. Et j'avais filmé le petit Enzo et ses parents dans la région parisienne, et je me souviens du témoignage des parents et de la maman d'Enzo qui avait été dans un hôpital dont je ne citerai pas le nom parce que cet hôpital est très renommé pour bien d'autres choses et fait des choses formidables, mais on lui avait dit, en résumé, hein, qu'il n'y avait aucun espoir, que son fils était donc autiste et qu'en gros, il resterait, alors dans son jargon, elle m'a dit comme un légume, je pense que les médecins ont été peut-être un peu plus délicats que ça, mais en gros, on lui disait que voilà, il n'y avait rien à faire. Et cette maman s'est battue. Et elle a utilisé cette méthode qui, elle aussi, venait des États-Unis. Alors, je sais qu'il y avait un 7 dedans. Il me semble que c'est la méthode du 17 ou du 7. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, Enzo parle. Enzo va à l'école. Et Enzo a énormément progressé. Donc, en cela, je veux dire que votre combat, il est tout à fait légitime. Et que tous les parents qui sont dans cette situation, qui nous écoutent ce soir... ne doivent absolument pas prendre au mot tout ce qu'on leur dit du côté des médecins et des psychanalystes, justement, mais se battre comme vous, parce que ces enfants-là ont bien évidemment une capacité de développement immense. Et je pense que votre fils vous a prouvé cela.
Mon fils, il m'a apporté beaucoup de choses dans ma vie. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je me bats pour lui, je me bats pour qu'il puisse être inclus. Et que peut-être, en fait, tout simplement, ils puissent peut-être un jour travailler. Et voilà, en fait, tout est basé sur la communication, sur l'autonomie et sur ce que, en fait, je vois pas comment, en fait, si on me refuse, en fait, une aide humaine, une auxiliaire de vie scolaire à l'école, ce qui est totalement illégal, je vois pas comment, en fait, plus tard, il pourra peut-être accéder même à une classe spécialisée ou peut-être faire un CAP.
Oui, avoir sa place, en tout cas.
Avoir sa place, ni plus ni moins, dans la société. Et que je ne sois pas condamnée à avoir mon enfant à la maison.
Et où, comme tout, la monde, plupart des... et où tout le monde, finalement, serait gagnant à essayer, tout du moins, d'entreprendre cela. Parce que on ferait de votre fils quelqu'un qui a sa place et qui ne serait pas dans un institut qui... voilà, où ça coûte très cher. Alors, aussi.
Oui, alors après, attention, parce qu'en fonction de la lourdeur du handicap, je dis que l'inclusion, c'est bien, mais mon fils ne peut pas être inclus à temps plein à l'école. En fait, il a besoin quand même d'avoir un accueil de jour dans sa structure.
Oui, il a besoin de repos, voilà. En fait, dans une journée.
En fait, non, c'est pas du repos, en fait, c'est de la stimulation. Il est stimulé par des éducatrices.
Oui.
Par des éducatrices formées du coup à l'ABA, au TEACH, qui est une autre thérapie. Et donc, du coup, pour lui permettre en fait de progresser, de lui permettre d'interagir socialement, de communiquer et aussi de le canaliser au niveau de ses comportements. Voilà, et en plus, on a un accompagnement aussi à domicile. Elles viennent les éduquer à la maison pour nous aider pour le comportement, pour plein de choses, en fait, pour favoriser son autonomie, pour s'habiller, voilà, pour rester à table, pour rester assis, pour apprendre à jouer tout seul. Voilà, après, je me bats quand même pour qu'il soit à temps partagé inclus à l'école.
Laetitia, on va continuer à évoquer votre combat et voir sur quoi cela peut déboucher, bien évidemment, pour votre fils. Et puis, vous allez me reparler de l'attitude de la MDPH, parce que je suis assez curieux d'entendre cela. Vous restez avec moi, on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.
Très bien. À tout de suite.
Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 3921, 50 centimes la minute. Antenne d'Europe 1. Olivier Delacroix accompagne vos nuits.
Votre libre antenne jusqu'à 1h du matin en direct. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant. Nous sommes avec Laetitia qui nous parle de son combat pour que son fils de 8 ans, autiste, eh bien, gagne sa place et soit accepté normalement, en fait, à l'école. La MDPH, pour l'instant, a une attitude pour le moins curieuse vis-à-vis de Laetitia. Parlez-moi de l'attitude de la MDPH. Pourquoi elle s'oppose à vous comme ça?
Alors, on a fait une équipe de suivi de scolarité. J'ai contacté la cellule d'aide handicap du gouvernement. J'ai expliqué ma situation.
Oui.
Et donc, je leur ai expliqué voilà, que mon fils avait besoin d'une auxiliaire de vie scolaire. Donc, j'ai refait tout en due forme, l'ESS. J'ai rempli mon dossier, parce qu'il faut remplir souvent, enfin administrativement pour nous, en fait, proches, aidants familiales, c'est quand même lourd. Hein. Et du coup, j'ai re-rempli mon dossier. J'ai tout renvoyé en bonne et due forme. Et en fait, ils m'ont renvoyé là dernièrement. Donc ça a duré 3 mois. J'ai attendu 3 mois. Donc depuis septembre, en fait, j'avais fait la demande. Et du coup, ça a duré un peu plus longtemps. Et ils m'ont renvoyé donc un courrier, une notification. Tout ce que j'ai demandé a été refusé, en fait. Donc j'ai eu une notification comme quoi, en fait, on me refusait complètement, en fait, refus d'aide humaine. Il fallait que je m'appuie sur le CESAD ABA où mon fils est. Et j'avais demandé pareil, un ordinateur, du matériel pédagogique pour aider mon fils en fait à l'école. Tout m'est refusé. Du coup, je pars en recours avec mon avocat.
Et est-ce que ces refus sont motivés au moins par... ils sont argumentés, ces refus ?
Non. Juste, vous avez comme phrase sur la notification... refus d'aide humaine, 2 points, il faut s'appuyer sur les ressources du CESAD ABA.
D'accord.
Voilà. Sauf qu'en fait, c'est totalement illégal. En fait, notre structure était expérimentale et avec le retour au droit commun, notre structure, en fait, est devenue un CESAD, accueil de jour, milieu ordinaire. Donc, normalement, avec cet agrément de l'Agence régionale de santé, nous avons la possibilité de faire une demande, d'avoir des auxiliaires de vie scolaire pour accompagner nos enfants et que ce ne soit plus forcément des éducatrices qui accompagnent les enfants à l'école. Mmh. Pour permettre en fait à notre structure d'accueillir en plus 4 autres enfants en CESAD. Et je suis la première à faire la demande et on me le refuse.
Mais je rappelle que ces auxiliaires de vie scolaire qui sont des AVS, hein, c'est bien
oui.
Ça sont des personnes qui sont loin de coûter cher à la société. Et que c'est la croix et la bannière pour tout un tas de parents, justement, ayant un enfant différent. Vraiment un combat de tous les jours pour obtenir cette auxiliaire de vie scolaire. Moi, je connais beaucoup de parents qui se sont vus... obtenir cette auxiliaire, mais 3 mois, 6 mois après leur demande, avec 3 mois de scolarité restant. Tout ça pour vous dire que des fois ça ne sert à rien. Enfin, on a l'impression de se battre contre des moulins à vent.
Mais non, en fait, il faut aller en recours, il faut se battre juridiquement pour faire valoir les droits de nos enfants ici en France, des pays des droits de l'homme. Je veux dire, nos enfants ont des droits fondamentaux et moi, je trouve ça totalement discriminatoire. Voilà, je parle au nom de mon fils, mais je parle aussi au nom des 1800 familles ici en Loire-Atlantique qui seraient sans doute sans solution.
Oui.
Et aujourd'hui, je ne me laisserai plus faire. Je ne me laisserai plus faire, j'irai en recours avec mon avocat et la MDPH est responsable et doit accorder une notification pour que je puisse avoir une aide humaine pour mon fils à l'école.
Pourtant,
c'est la loi.
On a eu l'impression que Mme Macron s'était vraiment lancée dans un combat pour l'autisme et que les choses avançaient.
Mais non, c'est une vaste blague.
D'accord.
C'est une vaste blague, une vaste farce. Nous sommes plusieurs familles. Je parle au nom de toutes les familles d'ici en situation de handicap. Enfin voilà, je me sens évidemment je me sens concernée parce que c'est mon fils. Et aujourd'hui, il progresse tellement, on revient vraiment de loin. Mon fils a deux neurochirurgies d'épilepsie. une malformation cérébrale. Il a fait 30, il faisait jusqu'à 35 crises d'épilepsie par jour. Oui. J'ai vécu un enfer. Aujourd'hui, je m'en sors. Mon fils a été diagnostiqué autiste et aujourd'hui, ils me mettent des bâtons dans les roues et m'empêchent d'avoir une aide humaine.
Ce qui est complètement scandaleux. Je suis d'accord.
C'est scandaleux.
Avec vous.
Ouais. C'est scandaleux et quand c'est la chair de sa chair et que c'est son enfant, vous feriez tout, vous seriez prêt à soulever
oui,
des montagnes.
Oui, mais complètement. Mais même au-delà de votre combat pour la chair de votre chair, c'est totalement scandaleux d'entendre que votre fils a progressé grâce à ce combat et que
bien sûr.
Et que on peut voilà, pour qu'on comprenne bien hein, le sens de votre message, on peut le stopper dans cette progression pour de sombres raisons qu'on ne vous explique pas en plus. Hein, qu'on...
En fait, ni plus ni moins, s'il y avait comment dire, des médecins qui seraient formés à l'autisme, y a un manque crucial en fait, de formation au niveau de la médecine, au niveau des soins, au niveau du diagnostic, un diagnostic précoce. En fait, aujourd'hui, on a vraiment un retard sur le diagnostic et encore aujourd'hui. On est obligé de se battre pour pouvoir avoir un diagnostic et pour pouvoir mettre en place des prises en charge. Et en plus, vous n'avez pas, en fait, quand votre enfant peut être, je ne sais pas si vous avez des enfants qui sont aussi, vous voyez, je ne parle pas parce que j'ai des amis qui ont des enfants qui sont sévères et je vous assure, c'est terrible. C'est terrible parce qu'adulte, en fait, il n'y a pas de structure adaptée, il se retrouve à la maison.
Oui.
Et c'est scandaleux. Et même là, en fait, c'est plus la prise en charge et le diagnostic est tôt et précoce, plus l'enfant a possibilité d'évoluer, évidemment, en fonction de son niveau. Qu'on soit léger, modéré, sévère. Voilà, on est tous différents, après tout. Et on vit dans une société... c'est
en
norme.
On évoque souvent, Laetitia, les pays d'Europe du Nord... Suède, Danemark, qui ont une politique totalement différente hein, et d'accueil tout de suite. Je pense à, pour leur scolarité, il y a une formation des professeurs. Vous avez des éléments de comparaison à nous donner par rapport à d'autres pays où on fait autrement. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Hein, je vous posais la question.
Je sais qu'en fait le modèle éducatif en fait en Finlande, en Suède est complètement différent au niveau éducatif et qu'il existe aussi des structures et ça n'a rien à voir et que même il existe des logements inclusifs pour des adultes.
Oui.
Voilà, il y a quand même des solutions. Ils essayent de trouver même des solutions d'avenir pour les enfants,
c'est-à-dire
les ados et pour les adultes.
C'est-à-dire que dans ces pays-là. Dès le début, il y a de la place. On considère que cette place doit être... elles sont créées dès le début, vous voyez, dès que les enfants sont en âge d'aller à la crèche, de marcher, ensuite d'aller
oui,
à l'école.
Ils sont inclus.
Ils sont inclus aussi. Voilà. Et ce qui veut dire qu'on les inclut dans la société et que cette société, elle évolue avec tous ces enfants, en fait. Ces
oui.
enfants normaux et puis les enfants qui sont moins normaux et puis toute cette société elle évolue et puis elle mue comme ça et c'est ce pourquoi on a d'énormes résultats dans ces pays-là. Et vous savez que tout dépend des MDPH parce qu'il y a des MDPH selon les régions qui agissent
beaucoup
mieux.
Mais nous on a une
mieux,
très
hein.
mauvaise MDPH.
Ah oui, ouais, ouais.
Bah, on a une très mauvaise MDPH ici, ouais. Dans le 44, hein, je précise. Voilà, je n'arrive pas à comprendre en fait. Mm-hmm. Parce que malgré tous les certificats médicaux, tout ce qui peut justifier, on vous propose des choses absurdes où on vous refuse catégoriquement justement des droits. Tout simplement.
La prochaine étape pour vous, donc, c'est ce recours. Quand vous saurez tout ça ?
Ce recours est la semaine prochaine.
D'accord.
Ça a été rapide, finalement. Je ne m'y attendais pas.
Bon, peut-être allez-vous avoir une bonne surprise.
On verra, mais j'y vais avec mon avocat et avec le directeur de l'établissement Agir et vivre l'autisme de Nantes.
Vous nous tiendrez au courant voilà. hein, de l'évolution des choses pour qu'on sache ce qu'il en est de votre vie. Parce qu'actuellement, Je n'ai pas saisi, il ne peut plus aller à l'école ou il y va quand même un
Alors
peu
Alors si, en fait, il y va à mi-temps. Il va en fait à mi-temps, il fait un mi-temps partagé inclusion scolaire.
Oui.
Et pour l'instant, il est accompagné par une éducatrice en fait de son établissement. Mais normalement, ça doit changer. On ne pourra plus, ils ne pourront plus continuer d'accompagner Ewan à l'école. Ce n'est pas leur rôle en fait. En fait, on devait avoir des accords avec l'éducation nationale pour pouvoir en fait même l'établissement ABA où il est. Il proposait de former du coup les auxiliaires de vie scolaire. Mmh. Et normalement, elles doivent être formées par l'éducation nationale. Mmh. Mais on attendait, on m'avait promis en fait une solution. On m'avait promis une solution. L'inspecteur académique du pôle ASH de Loire-Atlantique m'avait promis une solution après les vacances de la Toussaint. Madame Loyac, nous allons faire tout notre possible. Tout le monde était moins à l'appui. Tout le monde était OK. Et j'attends toujours mon AVS. Et aujourd'hui, en fait, on me la refuse. Et je suis obligée d'engager et de faire des recours avec mon avocat et d'aller en commission.
Est-ce que il y a une association qui regroupe la plupart de ces familles d'enfants autistes en Loire-Atlantique?
Ben, vous en avez plusieurs. Vous avez Autisme France. Autisme France qui m'a quand même bien aidée. Vous avez Agir et Vivre l'Autisme. Vous en avez plusieurs associations.
Et elles n'ont pas un moyen de pression supplémentaire que vous, toute seule, comme ça?
Non, malheureusement pas avoir de moyen de pression supplémentaire, non. Non, il faut faire des recours juridiques. Plus les parents vont se manifester ou médiatiser, et plus les choses pourront avancer. Malheureusement, en fait, c'est dingue, hein, parce qu'en fait, on est obligé de mettre une énergie telle. Vous voyez, on pourrait la mettre ailleurs, cette énergie. Enfin, voilà, moi, je ne travaille plus, je m'occupe de mon fils. Je travaillais dans le commerce. Je peux plus, en fait, les horaires ne me permettent plus de pouvoir travailler. J'ai un statut d'aidant familial. Je suis séparée, je suis seule. J'ai mon fils, j'en ai la garde pendant 15 jours. Son papa le prend un week-end sur deux.
Oui.
J'ai peu de temps de répit. Je m'en occupe, je me forme. Et j'ai les éducatrices qui viennent aussi à domicile. Et je fais les trajets. Voilà, je...
Enfin, aujourd'hui, votre travail, donc, c'est de garder votre fils, en gros.
C'est aidant familial.
Aidant familial. Combien vous gagnez en tant qu'aidant familial?
Oh là là, c'est...
Ben, c'est important, parce que ça, c'est pas beaucoup.
Non,
c'est pas beaucoup.
C'est pas beaucoup.
Ben non.
Je dirais pas le chiffre, mais ce n'est pas mirobolant.
Non.
Je trouve que ce n'est pas assez reconnu. Voilà.
Écoutez,
j'ai la chance de pouvoir avoir l'aide de ma famille.
Oui.
Voilà.
En tout cas, bon, ouais. quand ce recours va avoir lieu, vraiment, je compte sur vous pour nous tenir au courant de la suite des événements, parce que vous savez, en fait, voilà, il y a déjà des SMS qui tombent sur le 3921 et les gens qui écoutent sont toujours soucieux de connaître la suite des événements. Donc, vraiment, je compte sur vous pour nous tenir au courant, d'accord?
D'accord, il n'y a aucun souci, je vous tiendrai au courant. Et puis, je voulais remercier, en tout cas, Lady de Nantes, voilà, qui a fait mon portrait et qui a porté ma voix et mon combat. Et je voulais remercier Valérie-Louis Gobert et Alexandra Roule.
Mais voilà, c'est fait.
Voilà, et je vous remercie beaucoup de m'avoir permis de m'exprimer.
Je vous en prie, passez une bonne nuit Laetitia et bon courage.
Merci,
au revoir.
Vous aussi, laissez votre message à Olivier Delacroix au 739 21, 75 centimes plus coût du SMS.